Eh bien, je reçois tout de suite Gaël Coste-Meunier, président de l'association Droits du Parent et de l'Enfant, DDPE, engagé depuis plus d'une décennie dans la lutte contre l'exclusion parentale. Son combat personnel pour maintenir le lien avec sa fille éloignée en Pologne depuis 2011, elle l'a conduit à fonder la DDPE en 2017. L'association, suivie par plus de 7700 personnes, offre un soutien psychologique et juridique aux parents confrontés à l'aliénation parentale. Et en 2024, Gaël Coste-Meunier a également été tête de liste du mouvement Défendre les enfants aux élections européennes, plaidant pour une réforme profonde du droit familial afin de garantir à chaque enfant le maintien d'un lien équilibré avec ses deux parents. Eh bien, monsieur Coste-Meunier, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a conduit à fonder l'association DDPE, Droits du Parent et de l'Enfant?
Oui, tout à fait. Bonjour. Ce qui m'a amené à fonder cette association, c'était d'abord une page Facebook que j'ai créée en 2015 et qui fait suite en fait, à l'enlèvement de ma fille par sa mère en 2011. Sa mère est polonaise. Et elle est partie en Pologne pour ce qui devait être des vacances. Et en fait, arrivée sur place, elle m'a dit « on reste ici ». Je lui dis « mais comment ça, on reste ici ?» Elle me dit « oui, on s'installe ici, on va vivre ici ». Je lui dis « en fait, non, enfin, là, on a un enfant à charge ». Moi, j'étais seul à travailler à ce moment-là. Et on avait planifié ensemble d'aller qu'elle aille en vacances en Pologne, qu'elle reste un mois en Pologne seule avec notre enfant, que le mois suivant, je les rejoigne, qu'on reste un mois supplémentaire en Pologne ensemble, puis qu'on rentre ensemble. Comme ça, ma fille pouvait voir sa famille polonaise pendant deux mois, entendre du polonais pendant deux mois, c'était dans son intérêt. Dès le premier jour, elle m'annonce qu'elle a unilatéralement pris une autre décision, et moi, je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. C'est un peu... on a trouvé une solution ensemble, et très rapidement, je comprends que c'est un mur, voilà.
Donc, votre histoire personnelle avec... Votre fille a été beaucoup médiatisée. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre engagement ?
Alors, je ne sais pas si c'était beaucoup médiatisé. Je pense que maintenant, petit à petit, à force, quoi, ça a été médiatisé. Je pense qu'au départ, au moment où ce type de situation-là arrive, les personnes à qui ça arrive sont vraiment seules. C'est-à-dire que vous avez envie de dire aux gens, mais réagissez, que les autorités françaises réagissent, que les tribunaux réagissent, que la police intervienne, que quelque chose se passe. L'enfant voit ses droits fondamentaux complètement bafoués. Et en fait, vous vous retrouvez seul face à beaucoup de silence. Et c'est petit à petit qu'on arrive à médiatiser quelques cas, mais ça reste quand même assez limité, je trouve, par rapport à l'ampleur des fléaux qui touchent les enfants, et particulièrement à l'ampleur de l'aliénation parentale qui peut toucher les enfants.
Ouais. L'aliénation parentale, on en reparlera forcément un peu plus amplement tout à l'heure. Votre fille est toujours en Pologne à l'heure actuelle ?
Alors, ma fille est toujours en Pologne. Alors, moi, j'ai eu plusieurs périodes, en fait. Elle a été kidnappée en 2011. De 2011 à 2014, je la vois quasiment pas. Je la vois uniquement quand il y a une audience et je vois à ce moment-là ma fille avec sa mère à l'extérieur et je paye les cafés, je me plie à toutes les exigences de la mère pour voir ma fille. Donc c'est un peu une sorte de situation étrange où d'apparence extérieure on est un couple avec un enfant et en fait dans la relation on est un couple séparé avec une personne qui a kidnappé un enfant. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Deuxième période, c'est 2014-2018 où là j'ai une décision judiciaire qui est une décision judiciaire ultra violente. Qui me permet de voir ma fille uniquement en Pologne, enfermée dans une pièce de la maison de l'ex-belle-famille, donc sous le contrôle de la mère de mon enfant. Et donc je la vois le premier week-end de chaque mois, le vendredi de 17h à 19h enfermée dans la pièce, le samedi de 10h à 19h enfermée dans la pièce avec 4 heures de sortie librement, le dimanche de 10h à 18h enfermée dans la pièce avec 4 heures de sortie librement. Et j'ai également 21 jours en juillet, du 1er au 21 juillet, où je vois ma fille de 9h à 19h enfermée dans la pièce avec 4 heures de sortie et 3 fois dans le mois j'ai le droit à 8 heures de sortie, voilà. Et pendant ces sorties la mère a le droit à un appel téléphonique. Moi quand je suis seul en France que je vois pas ma fille, j'avais le droit à 2 appels par semaine, voilà. Donc là c'est 2014-2018 et puis après à partir de 2018 où là j'ai une nouvelle décision et je vois ma fille toujours en Pologne le premier week-end de chaque mois uniquement, donc je parle les jours de juillet, je la vois de 15h à 19h à l'extérieur le vendredi, 10h-19h à l'extérieur le samedi et 10h-18h à l'extérieur le dimanche. Voilà. C'est cette décision qui devrait s'appliquer encore maintenant, mais qui n'est plus appliquée depuis mai 2023. C'est la dernière fois que j'ai vu ma fille. Donc depuis juin 2023 jusqu'à aujourd'hui, cette décision n'est plus appliquée par la mère.
Alors, je suppose que c'est particulièrement compliqué quand il s'agit... d'un enfant, enfin déjà un enfant en France c'est très difficile, quand il s'agit d'un enfant qui est à l'étranger, comment ça fonctionne ?
Alors en fait je pense que les situations d'exclusion et d'aliénation parentale sont compliquées un peu partout pour les pères et les mères qui les vivent. Et je pense que le fait que ce soit à l'étranger, ça ajoute des frais essentiellement. Ça ajoute les billets d'avion, donc ça c'est le trajet, mais ça ajoute aussi tout ce qui est traduction. Ces deux postes, voilà, les frais d'avocat, je pense à peu près les mêmes. Par contre, voilà, les frais de traduction et les billets d'avion, là c'est des dépenses vraiment conséquentes qui aggravent la situation. Et très franchement, on est dans une situation où la majeure partie des personnes, je pense, il faudra voir s'il y a une étude sur ce sujet, qui vivent cette situation-là, sont contraintes d'abandonner en fait. Pour des raisons financières. Donc il y a quelques personnes qui se battent, mais c'est parce qu'il y a une famille derrière. Moi, j'ai pu me battre parce que mon père et ma mère étaient derrière moi à m'aider financièrement et à renflouer mes découverts réguliers, quoi. Beaucoup de personnes sont exclues d'une sorte d'invisibilisation complète et de silence de la société qui va dire après que c'est là une mère démissionnaire ou un père démissionnaire, alors que c'est juste une personne à qui la société n'a laissé aucune chance de se battre finalement pour son enfant.
Et votre enfant a-t-elle la double nationalité ? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui complexifie encore les choses ?
Alors non, ça devrait simplifier. Alors ma fille a la double nationalité, elle est née à Paris, donc elle a le droit du sol, elle est née d'un père français, donc elle a le droit du sang, et on ne peut plus française. Et maintenant, elle se retrouve à bientôt 16 ans, à n'avoir vécu qu'en Pologne, sauf son premier un an et demi après sa naissance. Donc, elle n'a pas de souvenir de la France. Et en plus, elle ne parle pas le français, puisque sa mère est bilingue français-polonais, mais elle ne lui a pas appris le français, puisque ça communique avec son père. Et donc, elle se retrouve française, de droit, mais étrangère de fait, voilà. Et ça, c'est aussi la conséquence du fait que l'État français, malheureusement, n'intervienne pas dans cette situation-là. En prétextant la séparation des pouvoirs. Je pense que quand une personne est condamnée, par exemple, à mort dans un certain pays, on intervient. Pourquoi ? Quand un enfant est retiré comme ça à sa famille et voit ses droits fondamentaux tels que définis par la Convention internationale des droits de l'enfant bafoués, pourquoi les États, à ce moment-là, n'interviennent pas pour dire « là, nous, il y a un problème pour telle ou telle ressortissante ou ressortissant, il y a un problème, ça n'est pas normal et on échange ensemble de voir ce qui peut être envisagé. » Parce que là, on ne peut pas accepter qu'une enfant française soit privée de la France.
C'est une des missions de votre association, des DPE, droits du parent et de l'enfant ?
Alors, droits du parent et de l'enfant, on a plusieurs missions. Déjà, c'est venir en aide à tous les parents qui vivent ces situations-là, qui sont dans une détresse et une souffrance assez grande parce que leur monde s'effondre, parce que d'un seul coup, ils prennent conscience que ce qu'on leur a dit, d'une société qui fonctionne, d'une justice qui fonctionne, d'une police qui intervient, c'est surtout une vitrine et que dans les faits, ces personnes-là, elles sont détruites par un système qui est ultra-violent. Et par des situations qui ne sont pas du tout prises en compte. Donc ça, c'est déjà apporter de l'aide. C'est pour ça qu'on fait une permanence à Nantes, sur la ville de Nantes, une fois par mois, on fait une permanence d'aide et de soutien personnel et psychologique pour les personnes qui vivent ces situations-là. Et aussi, on lutte naturellement pour que les droits de l'enfant soient mieux respectés, pour davantage d'égalité entre les femmes et les hommes, pour la prise en compte réelle des situations d'exclusion et d'aliénation parentale, pour une évolution sociétale aussi juridique, législative, pour que les choses changent en France, pour que la justice change. Et c'est ce qui a aussi mené notre association Droits du Parent et de l'Enfant à lancer le mouvement Défendre les Enfants, qui est un collectif plus large, qui a présenté une liste aux élections européennes. Et donc notre association a été vraiment à l'initiative et moteur de ce projet. Et on a pu présenter une liste aux élections européennes avec l'idée que finalement les médias en parlaient assez peu de ce sujet des droits de l'enfant ou alors vraiment selon un prisme. Et donc il y a certains fléaux qui touchent les enfants qui ne sont pas abordés malheureusement. On s'est dit si on est candidat aux élections européennes, il y aura l'obligation de diffuser un clip de campagne, il y aura l'obligation de parler un petit peu de chaque liste et donc on pourra aborder cette question des droits de l'enfant. D'ailleurs je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à répondre à vos questions.
Avec plaisir. Vous parliez à l'instant, à plusieurs reprises, d'aliénation parentale. Est-ce que vous pouvez nous en faire la description. Qu'est-ce que l'aliénation parentale?
Oui, alors l'aliénation parentale, c'est quand un parent, alors ça peut être un parent direct, hein, le père ou la mère, ou ça peut être aussi un grand-parent, des fois, après ça, quand un parent fait de l'enfant non pas un être en construction et en devenir, un être sensible, mais un objet de pouvoir narcissique pour lui-même, un objet de contrôle, de nuisance aussi vis-à-vis de l'autre, et finalement, ce parent-là va mettre en place une emprise psychologique qui est vraiment une emprise de type sectaire, comme on trouve dans les sectes, ou une emprise toxique, comme on trouve dans les couples toxiques. Malheureusement, beaucoup de personnes dans nos auditeurs, dans vos auditeurs et auditrices, je pense, comprennent de quoi il s'agit. C'est du coup un parent qui va petit à petit tourner l'enfant contre l'autre parent et faire en sorte que l'enfant va même lui-même penser des choses contre l'autre parent en pensant que c'est lui qui a eu l'idée de manière autonome. C'est l'illusion du penseur libre qui intervient dans beaucoup de situations justement d'emprise psychologique. Et donc l'enfant va s'enfermer dans un schéma, dans un narratif, et il va rejeter un parent qui est pourtant un parent aimant pour diminuer la tension que le parent toxique exerce sur lui.
Et c'est quelque chose qui devrait être condamné par la loi
Alors c'est pris en compte dans beaucoup de décisions. Il y a eu une décision récemment de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Pologne justement dans une situation où la décision incite l'aliénation, une situation où une mère n'arrivait justement plus à voir son enfant. Et donc la Pologne a été condamnée parce qu'elle n'avait pas mis en place des actions suffisantes pour garantir le lien entre l'enfant et sa mère. Donc je pense qu'effectivement, il y a du devoir des pays de prendre en compte cette aliénation parentale, la mesurer, et parce qu'au risque de s'exposer justement à des condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Après, il y a une géométrie variable selon les pays. Il y a des pays où elle est vraiment analysée et prise en compte. La France est dans une situation un petit peu singulière, puisqu'il y a certaines personnes qui prétendent que ça n'existerait pas. Bon, moi je laisse ces personnes à leur discours d'invisibilisation qui est ultra violent pour les enfants et les parents qui vivent ces situations. Et puis surtout, ce serait prétendre qu'un enfant pourrait se protéger d'une emprise psychologique là où les adultes n'y arrivent pas. Si on prend les sectes, voilà, c'est des adultes qui n'y arrivent pas. On prend les couples toxiques, les situations, par exemple, de violence intrafamiliale ou conjugale, il y a une emprise psychologique sur la personne qui est victime. Comment un enfant pourrait, lui, du haut de son âge, avec toute la dépendance qu'il a vis-à-vis de ce parent, résister à une emprise? Bon, c'est indéfendable. C'est indéfendable.
Alors justement, quels sont, selon vous, les principaux dysfonctionnements du système judiciaire en matière de garde d'enfants?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, centralement, et je pense que tous les juges et avocats qui pourront écouter l'émission en sont d'accord, il y a un grand problème de financement de la justice, et particulièrement de la justice familiale. Il y a plusieurs études ont estimé, faudrait les retrouver, hein, je ne les ai pas en tête, mais qu'un juge avait à peu près un quart d'heure pour lire un dossier, un juge aux affaires familiales. Ça veut dire, ça montre clairement que le juge ne lit pas le dossier, il n'a pas le temps, que les jugements sont des copier-coller, et ça à tous les niveaux, hein, c'est vraiment, il y a du copier-coller, et moi je vois plein de parents qui voient des paragraphes qui ne correspondent même pas à la situation, qui ne correspondent même pas à ce qu'a dit la partie adverse ou à ce qu'ils ont dit eux, hein, c'est hors contexte. Donc là c'est des copier-coller qui restent dans les décisions, donc il y a un problème de budget, il y a un problème de formation aussi. Les juges sont des personnes qui ont fait des études de droit et à qui on pose des questions sur finalement une problématique psychologique. Or, ils ne sont pas formés en psychologie. Et justement, nous, dans la campagne pour les européennes, on avait fait un programme. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le site défendrelesenfants.eu et sur l'onglet européenne. On avait un programme, justement, on avait proposé que la moitié des juges aux affaires familiales soient des juges ayant fait des études de droit avec un venu de psychologie et que l'autre moitié soient des juges ayant fait une formation de psychologie avec un venu de droit. Que ces mondes se rencontrent, que ces mondes se comprennent. Parce que là, actuellement, on a des décisions qui sont prises par certains juges qui sont en tant que telles violentes et mauvaises pour l'enfant. Quoi. Donc il y a aussi une évolution, un changement de paradigme qui est nécessaire. Actuellement, on a un mode de garde qui est imposé, qui est un mode de garde violent et inégalitaire, qui est le 75-25%. Ce mode de garde, c'est un mode de garde par défaut qui est choisi très massivement par les juges actuellement et qui est un mode de garde en fait assez passéiste puisque en fait on impose à l'enfant un parent principal et un parent secondaire. Déjà, de quel droit l'enfant aime ses deux parents à égalité? Il les aime différemment, il les aime avec des nuances, mais il les aime fondamentalement à égalité. Et quand on regarde en plus la statistique, on se rend compte que le parent principale imposée à l'enfant est très c'est très massivement la mère, et que le parent secondaire imposé à l'enfant, c'est très massivement le père. C'est-à-dire qu'en fait, la justice signifie aux femmes, bah, finalement, votre rôle, ce serait de vous occuper des enfants, et votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous n'aurez plus que 25% du temps pour la réaliser. Donc déjà, c'est enfermer les femmes dans ce stéréotype patriarcal très 19e siècle. Et puis de la même manière, on dit aux hommes, ben vous, votre rôle, ben vous n'êtes pas vraiment un parent, donc vous, ben vous allez travailler, vous allez ramener de l'argent, puis d'ailleurs vous allez payer de l'argent à madame, puisque c'est elle qui les enfants plus longtemps. Donc là encore, on enferme les hommes dans un stéréotype patriarcal et très 19e siècle.
Ouais, et puis et cette, en plus, cette violence de recevoir un jugement qui dit que vous êtes condamné
fait. Alors en plus, on est condamné, voilà. En plus, c'est ça, c'est les personnes sont condamnées. Alors bon, je pense que là-dessus... On a changé le terme sur, par exemple, les personnes qui étaient... Maintenant, elles sont mises en examen. Avant, elles étaient inculpées. Maintenant, on met les gens en examen. On a changé le terme, justement, parce qu'inculpé, il y avait coupable, comme dans la racine. Je pense qu'on peut vraiment se questionner sur les termes et sur ce qu'ils signifient. Et moi, je vois dans les permanences que je fais... des personnes qui, effectivement, ayant reçu une décision de justice, mais sont en pleurs, sont brisées de lire les mots, de lire ce que ça signifie pour eux. Ils sont dans une souffrance, ils voient peu leur enfant, voire plus du tout, et ils lisent des décisions, mais qui sont d'une violence extrême pour eux. Et donc, justement, il y a l'idée aussi de revenir vers une résidence plus égalitaire, parce qu'en plus, on fait grandir les enfants en leur tenant un discours d'égalité. Mais ces enfants-là, en leur tenant ce discours-là, on les fait grandir dans un monde qui est inégalitaire, puisqu'on leur impose un parent principal et un parent secondaire. Alors, donc là, on perd du temps et on ne forme pas les adultes de demain à l'égalité.
Alors justement, en ce moment, on entend beaucoup parler de la proposition de loi 819 qui vise à garantir le maintien des liens entre enfants et parents en cas de séparation conflictuelle. Quel est votre avis sur cette initiative et est-ce que vous êtes optimiste sur les possibilités qu'elle soit mise en place ?
Alors déjà, je trouve que c'est une initiative qui est très bonne. C'est une PPL qui est très bien rédigée, qui dit, voilà, maintenant le système de base, c'est plus le système inégalitaire, ça va être le système égalitaire. Et en plus, ce système-là, cette PPL, elle propose de changer le système de base, imposé massivement, tout en choisissant un nouveau qui est, lui, égalitaire, respectueux des droits de chaque parent et de l'enfant, et en plus, qui laisse toute liberté au juge de choisir, au cas par cas, toute autre organisation qu'il jugerait utile dans l'intérêt de l'enfant. Donc ça lui laisse totale liberté, par exemple dans les situations où, bien sûr, les situations où il y a des violences, par exemple, on entend pas mal parler des gens qui réagissent par rapport à ça en parlant des violences. Heureusement, dans les cas de violence, le juge a d'autres options que le mode classique discriminatoire ou la résidence alternée égalitaire telle que proposée par la PPL. Il y a le placement de l'enfant, les rencontres en lieu médiatique. Il y a plein d'options et donc la PPL qui généraliserait la résidence alternée laisse toute liberté au juge pour réagir de manière adéquate dans ces situations-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on est très en retard en ce qui concerne la résidence alternée égalitaire, puisqu'on est à 11,5% seulement de résidence alternée égalitaire. C'est les chiffres de l'INSEE de 2023. D'autres pays sont à 30% ou plus de 40% déjà. Et c'est des pays plus progressistes comme les pays nordiques, par exemple.
Et comment l'association DDPE, donc je rappelle, hein, droit du parent et de l'enfant, participait-elle au débat législatif sur ces questions ?
Alors, on participe pas directement au débat législatif. On a des contacts, il nous arrive de rencontrer des députés et d'échanger avec eux pour leur expliquer quelle est la situation, nos analyses, comment on appuie nos raisonnements et nos arguments. Et donc, ce sont des rencontres essentiellement. Après, on ne participe pas directement au débat législatif. Ça, c'est le monde politique qui est peut-être un petit peu moins accessible pour les citoyens que nous sommes, mais qui est un monde qui est quand même assez ouvert selon les personnes, les députés. Et d'ailleurs, je remercie les députés, femmes et hommes, qui accueillent les différentes personnes. Alors, soit de notre association, soit du collectif Défendre les enfants, puisque dans le collectif Défendre les enfants, il y a d'autres associations et d'autres personnes qui s'investissent à la suite des élections européennes et qui aussi arrivent à rencontrer des représentants et à leur exposer une analyse justement sur ces sujets.
Alors justement, pour sensibiliser la population et les élus à vos actions, vous organisez régulièrement des manifestations, c'est ça ?
Alors, on a organisé plusieurs manifestations. Il nous est arrivé, par exemple, de faire un tir de feu d'artifice là, ici à Nantes, parce que l'association est située à Nantes, à la cale des sous-marins, à côté du carrousel des mondes marins. C'était une action aussi qui visait à faire un petit événement festif en disant nos enfants ne nous voient plus, mais peut-être qu'ils entendront parler du fait qu'on a fait un feu d'artifice pour eux et qu'on pense à eux et qu'on les oublie pas. Après, il nous arrive aussi de faire des manifestations donc dans la rue, là, avec un stand pour rencontrer des personnes, pour sensibiliser. Et c'est vrai que le contact qu'on a avec les gens est globalement très positif et que moi, je pense qu'il y a un retard entre le politique et l'opinion publique déjà. Je pense que dans l'opinion publique, les gens savent très bien qu'il y a des enfants qui ne voient plus un de leurs parents sans aucun motif valable. Et les gens sont sensibilisés à ça. Globalement, les gens sont très favorables à la résidence alternée égalitaire et on voit que au niveau politique, par contre, il y a encore des tensions, des réticences. C'est peut-être à la population dans son ensemble de faire ressentir au monde politique qu'il y a un désir de changement qui est assez profond, je pense.
Alors justement, tout à l'heure, vous parliez un petit peu de votre engagement politique. En 2024, vous étiez tête de liste du mouvement Défendre les enfants aux élections européennes. Quelles étaient les grandes lignes de votre programme ?
Alors, on avait plusieurs axes. On avait déjà, bien sûr, la résidence alternée égalitaire qui était centrale. On avait aussi toute la situation en lien avec l'aide sociale à l'enfance et son évolution nécessaire. On pourrait parler aussi de l'aide sociale à l'enfance et des problématiques qui sont soulevées par les actions de ces services. Certains qui font un bon travail, d'autres qui sont en roue libre, malheureusement. Et puis, bien sûr, tout ce qui est la problématique de l'exclusion et l'aliénation parentale pour que ce fléau soit pris en compte. Après, il y a beaucoup de points. On a eu un programme qui était très complet, très vaste. Et ben, je renvoie à nouveau vers le programme sur défendrelesenfants.eu. Et on se pose la question aussi de la numérisation des procédures, parce qu'on voit que les procédures sont très lourdes en termes administratifs, que les juges perdent du temps aussi avec ça. On a parlé des termes déjà, donc changer les termes. Peut-être aussi faire en sorte que les expertises psychologiques soient vraiment mieux encadrées, qu'il y ait de réels protocoles, parce qu'on est confronté à des expertises qui sont, pour certaines d'entre elles, faites vraiment en dépit du bon sens. Je pense notamment à un cas d'une personne qui vient en permanence, où le psychiatre qui suit ce parent, qui est en dépression complète, a même écrit au juge en disant que l'expertise qui avait été faite sur son client par un autre psychiatre était totalement délirante et sans lien avec la réalité, tellement elle était faite rapidement, sans protocole. Et comment, en ayant reçu une personne 50 minutes ou 45 minutes, vous pouvez faire un profil psychologique? Je pense que voilà, là, on est confronté à des personnes. Dans le cas en question, le professionnel qui avait fait l'expertise avait rencontré la mère et l'enfant, la mère seule et le père seul. Et c'est tout. Ah oui. Voilà. Donc, l'enfant seul n'a pas été rencontré. Le père avec l'enfant n'ont pas été rencontré aussi non plus. Donc, voilà, il n'y a pas de protocole. Et puis, c'est une personne qui intervenait seule. Donc, du coup, c'est une personne qui n'a pas pu échanger avec un autre professionnel qui aurait été également témoin. Voilà, je pense que quand on fait une expertise psy, ben, il faut déjà avoir un rendez-vous avec les deux parents. Donc, ça fait déjà deux rendez-vous. Les deux parents avec l'enfant, l'enfant seul. Il faut être deux à observer la situation et à y réfléchir. Donc, vous avez déjà au moins 5 heures de travail, sachant que ce sont des rendez-vous qui ne doivent pas être chronométrés non plus. Mmh. Donc là, il y a vraiment des problèmes de protocole aussi qui se posent pour toutes ces questions-là. Je crains que malheureusement, il y a beaucoup d'évolutions législatives à envisager ou de changements de paradigme, mais que pour l'instant, la volonté politique n'est pas vraiment au rendez-vous, même si on voit que il y a une évolution récente. On a parlé de plusieurs faits divers qui ont malheureusement défrayé la chronique. Et puis là, le président de la République a lancé un projet d'échange et de réflexion sur les droits de l'enfant. Écoutez, il y a une commission également. Nous, nous n'avons pas été auditionnés dans cette commission-là. On aurait bien aimé, mais le travail de la commission est pour autant intéressant. On est des associations qui sont intervenues qu'on connaît aussi de loin en loin. Donc, il y a un travail qui est fait. Pour autant, quel va être le résultat? Moi, ma fille a été kidnappée en 2011. On connaît beaucoup de parents dont les enfants ont été kidnappés encore de manière encore plus ancienne et pour qui les choses n'évoluent pas. Et on se dit, mais ça va changer quand? Ça va changer quand? C'est bien de faire des commissions, c'est bien d'en parler, mais en parler, ça, c'est pas suffisant.
Alors, quels enseignements vous tirez de cette expérience politique, comme ça, en ayant été tête de liste du mouvement Défendre les enfants aux élections européennes? Et est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez reproduire de nouveau? prochaines élections ?
Alors, je pense que déjà, un point très positif, c'est que ça a mobilisé toutes les associations et collectifs qui ont participé. Ça a donné de l'énergie à toutes et à tous. Ça a montré à tous ces parents qui ne voient plus leurs enfants que, ben non, au contraire de ce qu'ils pourraient penser, ils ne sont pas seuls. Ils sont très, très nombreux et c'est pas un cas particulier qui leur arrive. C'est quelque chose qui est massif, c'est un fait de société. Et je pense que ça a apporté aussi un peu de visibilité à ces situations et un peu de soutien et d'aide et d'espoir et d'énergie à tous ces parents déjà. Donc là, c'est déjà une grande réussite. Ensuite, pour une première fois, l'organisation des élections, il faut que chaque liste imprime ses bulletins. Donc, imprimer ses bulletins, c'est au bas mot 500 000 euros pour 40 millions et plus la répartition. Donc, il y a forcément une inégalité complète entre les listes. Hein, c'est là-dessus on peut se poser la question du degré démocratique de l'élection. Sachant que, du coup, il y a une dizaine de listes qui vont imprimer 40 millions de bulletins, ça fait 400 millions de bulletins. Nous, après coup, on se dit que ce serait bien que l'État imprime 40 millions de bulletins une fois sous forme de liste et que les gens en coche, toutes les listes à égalité, on n'imprimerait qu'une seule fois 40 millions de bulletins. Bon, ça c'est pour le petit passage, mais malgré le fait qu'on demandait aux personnes d'imprimer leur propre bulletin, donc on a fait 5296 voix, ce qui est un très bon score pour une petite liste qui était se présentée pour une première fois. Et je pense que pour la suite, alors il y a beaucoup de discussions au sein du collectif Défendre les enfants avec les autres associations et collectifs, pour savoir est-ce qu'on va sur d'autres élections, est-ce qu'on refait les européennes. Je pense que les européennes, on les refera, ça me paraît une évidence. Après, pour d'autres élections, peut-être que ce serait intéressant de se présenter, par exemple, pour les départements, parce que les départements sont au-dessus des aides sociales, des services d'aide sociale à l'enfance, et que d'un seul coup, au lieu d'être accueillis dans les ASE, donc aide sociale à l'enfance, par des personnes qui nous disent « on vous fait une fleur en vous accueillant », ce à quoi, non, vous ne faites pas une fleur, c'est juste normal, on est une association, on représente des personnes, on prend les droits des enfants qu'on défend, donc ça devrait être normal. Là, nous pourrions éventuellement, si nous arrivions à avoir ne serait-ce qu'un élu dans un département, arriver à dire « maintenant, on vient vous voir, mais plus pour vous contrôler, voir comment ça se passe et discuter avec vous des évolutions possibles, parce qu'elles sont nécessaires et elles sont urgentes. »
Alors justement, quels sont les projets futurs de l'association des DPE ?
Alors, sur l'association des DPE, on continue les permanences, bien sûr, de faire des manifestations de manière régulière. Après, sur les actions politiques, là, c'est plus le collectif Défendre les enfants. Donc là, c'est une décision qui ne se prend pas uniquement dans l'association Droits du parent et de l'enfant, mais qui se prend avec les autres collectifs et associations participantes. Donc là, on a des groupes d'échange et on fait des réunions pour voir un petit peu les stratégies. Et chacun donne un peu son impression, son idée, et puis aussi en fonction des capacités aussi de mobilisation et d'action. Sachant qu'on est sur un sujet où on a des militants et des militantes qui sont volontaires, qui sont actifs, mais qui sont aussi, et ils le savent toutes et tous, dans une fragilité, parce que ce sont des personnes dont la vie est dévastée. Ce sont des enfants qui vivent dans l'absence. C'est-à-dire que j'aime bien cette image, je prends souvent, quand vous allez dans un endroit et vous ne vous sentez pas bien, il y a des personnes qui vous mettent mal à l'aise, ou vous partez, vous allez ailleurs. C'est simple, c'est une réaction simple, saine, humaine, faut réagir, fuis, tu ne te sens pas bien, tu fuis. Quand on vous prive de votre enfant, quand vous ne voyez plus votre enfant qui est un enfant aimé, qu'en plus vous voyez que votre enfant subit un bourrage de crâne, c'est l'aliénation parentale, un bourrage de crâne contre vous, qu'en plus éventuellement vous voyez qu'on apprend à votre enfant des choses que vous réprouvez complètement. Je pense à une mère qui me parlait justement de son enfant qui commençait à lui dire la place de la femme c'est à la cuisine. Elle était cet enfant est en train d'intégrer des schémas patriarcaux très graves, et elle, premièrement, elle est mise en situation d'impuissance par la justice, et donc ces personnes-là vivent vraiment une situation horrible, et c'est parfois, comme je dis à plusieurs personnes qui sont actives avec nous, si t'as besoin d'un blanc à un moment, je dis maintenant je suis désolé, je suis moins actif, c'est pas grave. On va mettre moins actif à un moment, puis on reprendra plus tard. Mais on est face à des militants et des militantes qui se battent pour que la société change, mais qui se battent aussi contre la dépression lancinante qui est là derrière et qui correspond à la violence qui leur est faite par leur ex-conjoint ou conjointe, mais aussi par la société elle-même. Donc courage à eux, courage à toutes et à tous.
Et comment vous envisagez l'évolution des droits parentaux et de l'enfant en France dans les prochaines années ?
Alors déjà, si la PPL 819 pouvait trouver une niche pour passer au Parlement et être votée, je pense qu'on verrait dans les années qui suivent évoluer, du moins on peut l'espérer, la pratique des juges. Parce que autant on peut dire les juges n'ont pas assez de moyens Ok, c'est un fait. Autant choisir une résidence alternée égalitaire à la place d'une résidence alternée inégalitaire, c'est pas une question de budget, c'est une question de choix. Et d'ailleurs, justement, si on prend ce choix-là, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait être très positif pour l'enfant. Donc ça, ce serait une évolution vraiment importante. Et je pense que si cette évolution arrivait, ça veut dire que déjà, dans les usages, ça changerait. Dans même les rapports des femmes et des hommes au travail, ça changerait aussi, puisque les hommes s'occuperaient davantage de leurs enfants, puisqu'ils auraient davantage de temps. Les femmes auraient davantage de temps pour elles aussi, pour leur carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc peut-être que les inégalités au travail qui sont liées aussi aux critiques qui peuvent être faites aux femmes, parce que ben là elles vont avoir une grossesse ou là elles vont avoir davantage d'arrêts pour garde d'enfants, etc. Ben, peut-être que ça va se généraliser aussi pour les hommes et rentrer dans la tête des gens que les pères sont des parents à part entière, que les mères sont des professionnels à part entière dans le milieu du travail, qu'elles ne sont pas que mères. On ne peut pas les essentialiser, les réduire à cette fonction, à cet aspect de leur vie. Et de la même manière, ne pas essentialiser ni les femmes ni les hommes. Je pense que la résidence alternée pourrait amener une évolution dans ce sens. Après, au-delà de ça, est-ce que, par exemple, l'aide sociale à l'enfance pourrait évoluer pour mieux prendre en compte la protection de l'enfance et ne pas, dans certains cas, détruire des familles ? Ben ça, je suis plus pessimiste, malheureusement. La PPL ne va pas œuvrer sur cet aspect des choses. Il y a aussi beaucoup de travail à faire dans ce sens-là.
Et pour finir, comment on peut rejoindre l'association ou en tout cas vous apporter du soutien?
Alors, pour rejoindre l'association, apporter du soutien, déjà, l'association Droits du Parent et de l'Enfant, elle est sur Facebook, donc Droits du Parent et de l'Enfant, donc facebook.com/droitsduparent, l'adresse courte. On est aussi sur LOASSO, donc là, vous pouvez, il y a une possibilité de faire des dons pour les personnes qui le désirent et même de devenir membre de soutien. Après, il y a naturellement le site défendrelesenfants.eu, qui est le site qu'on a mis en place justement pour les élections européennes. Et donc là, vous trouverez toutes sortes d'informations sur les différentes associations et collectifs qui participent, parce qu'il n'y a pas que Droits du Parent et de l'Enfant, sur le programme et les actions qu'on mène pour essayer de faire en sorte que les choses changent.
Merci à Gaël Coste-Meunier pour cet échange éclairant sur les enjeux de l'exclusion parentale et les actions menées par la DDPE, l'association Droits du Parent et de l'Enfant. Son témoignage met donc en lumière la nécessité d'une réforme du système judiciaire pour mieux protéger les liens parents-enfants. Pour en savoir plus sur l'association et ses initiatives, rendez-vous sur le site officiel défendre-les-enfants au pluriel.eu.